Si vous écoutez régulièrement Témoins d'actu, vous savez que la République démocratique du Congo, c'est le pays d'Afrique francophone où Radio France Internationale est la plus écoutée. Et c'est vrai, la RDC a déjà eu plusieurs fois sa place dans ce rendez-vous. Mais si j'ai choisi d'y retourner aujourd'hui, c'est que la région dont il est question dans cet épisode est bien souvent absente dans les médias. Il s'agit de l'Ituri, une province d'où revient Coralie Pierret, la journaliste et correspondante de RFI qui est basée à Goma et avec qui je discute. Allez, je sors ma carte. L'Ituri, c'est l'une des 26 provinces qui composent la République démocratique du Congo. Pour vous donner un ordre d'idée, sa superficie équivaut quasiment à celle de l'Irlande ou encore deux fois celle de la Belgique. Elle a vu le jour en 2016 à la faveur d'un redécoupage électoral et le vote de ses habitants est très convoité, comme lors des dernières élections générales. C'est surtout l'une des provinces de l'est du pays qui, avec le nord et le sud Kivu, est marquée depuis des années par des violences liées aux combats entre différents groupes armés. Des gens meurent, des femmes sont violées, d'autres kidnappées. Ceux qui échappent aux massacres sont de plus en plus nombreux à fuir. Fin 2023, l'ONU estimait à plus d'1,5 million le nombre de personnes déplacées pour cette seule province. 7 millions à l'échelle du pays. Et ces prochains mois devraient voir le départ de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Bonjour Coralie.
Bonjour.
C'est vrai que l'Ituri, où tu étais récemment en reportage, ce n'est pas une province dont le nom résonne beaucoup dans les médias, hein, sur RFI, oui, ailleurs un peu moins. D'abord parce que je crois qu'il n'est pas facile de s'y rendre. Toi, par exemple, tu vis à Goma, au nord Kivu, c'est la province qui est juste en dessous. Et prendre la route en voiture pour rejoindre, par exemple, Bunia, la ville principale d'Ituri, c'est impossible ?
Oui, alors, il y a bien une route qui fait Goma-Bunia, c'est environ 500 km. Mais d'abord, cette route, elle est en très mauvais état. Et puis en plus, c'est extrêmement dangereux de l'emprunter parce que il faudrait en fait traverser des zones où sévissent plusieurs groupes armés. Une partie de la province du Nord Kivu qui se situe au sud de la province de l'Ituri. Et cette partie-là, elle est occupée par le M23 qui est un groupe armé soutenu par le Rwanda. Et puis en plus, actuellement, sur cette route, il y a des combats avec des tirs d'artillerie, des obus, des roquettes, etc., à hauteur de Kanyabayonga. Donc c'est évidemment très dangereux de s'y rendre. Et puis, quand on remonte un petit peu plus au nord pour arriver jusqu'à Bunia, on rentre, après la zone M23, on rentre dans la zone qu'on appelle la zone ADF, qui est un autre groupe armé qui n'a rien à voir et qui est un groupe armé, à l'origine, ce sont des rebelles ougandais qui aujourd'hui sont basés en RDC depuis de longues années et qui se sont affiliés à l'État islamique. Donc on est sur une autre dynamique de conflit, mais c'est évidemment extrêmement dangereux. Et puis aussi, on risque de se heurter à des bandits que l'on appelle en RDC les coupeurs de route. Donc oui, il faut prendre l'avion. Mais là encore, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de ligne commerciale. Donc il faut négocier avec les ONG pour avoir accès aux avions humanitaires.
Ce territoire, Coralie, il est relativement vaste. Hein, donc je veux bien qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail pour ceux qui n'ont pas toutes les cartes en main. C'est assez complexe parce qu'il y a énormément, beaucoup de groupes dans l'Est du pays qui combattent. Si on se concentre sur l'Ituri, tu m'as parlé du M23, des ADF, moi j'ai aussi entendu parler de Codeco, donc je veux bien que tu m'éclaires un peu qui combat qui en Ituri et pourquoi.
Alors, en Ituri, principalement, on a deux conflits principaux. Au sud de l'Ituri, on a d'abord les ADF. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont des rebelles ougandais qui sont aujourd'hui basés en RDC et affiliés à l'État islamique. Et puis, si on remonte un petit peu plus au nord, principalement dans le territoire de Djougou, on a des milices communautaires qui s'affrontent, dont l'une, effectivement, s'appelle la Codeco. C'est une milice qui dit défendre les Lendu. Et puis en face, sa rivale, c'est la milice qu'on appelle Zaïre, qui dit défendre les Emma. Donc les Emma et les Lendu, c'est deux communautés, c'est les deux principaux groupes démographiques de l'Ituri, qui s'accusent en fait depuis de longues années mutuellement de volonté d'extermination. Les antagonismes sont très anciens, ils remontent à la colonisation, mais ces antagonismes avaient vraiment atteint leur paroxysme pendant la Seconde Guerre du Congo, qui s'est déroulée donc de 98 à 2003. Et à ce moment, les Hema et les Lendu s'étaient violemment massacrés par milices interposées, avant d'être stoppés par une opération lancée par l'Union européenne, une opération militaire que l'on appelait l'opération Artemis. Et puis pendant 20 ans, il y a eu une paix relative. Et depuis 2017, on assiste aujourd'hui à une nouvelle flambée de violence entre ces deux communautés.
Il y a des liens entre ces différents groupes armés ou pas ?
Ils sont sur des territoires différents, ils ont des revendications différentes. Le seul point commun, et je dirais pas que c'est un lien, mais le seul point commun, c'est la prédation économique. Les uns pillent les récoltes, notamment de café, les autres essayent de contrôler les mines d'or.
Et au milieu de tout ça, comme dans beaucoup de conflits dans le monde, ce sont les civils qui paient le prix de tous ces combats depuis des années.
Oui, d'abord parce que il y a peu d'affrontements en fait entre les groupes. C'est vraiment des assassinats ciblés, des massacres dans des villages, etc. Donc c'est vraiment les civils qui sont les principales victimes de ces conflits au pluriel en Ituri. Et puis, au-delà des meurtres et des massacres, c'est aussi une zone qui est fortement agricole. Et toute cette insécurité, toutes ces violences, en fait, empêchent un certain nombre d'agriculteurs d'aller au champ. Donc évidemment, ça pose tout un tas de problèmes en termes de subsistance. Et puis, il y a aussi une autre activité essentielle en Ituri, c'est l'exploitation aurifère, donc l'exploitation de l'or. Et là encore, c'est une exploitation qui est contrôlée, ou en tout cas qui est source de conflits entre les groupes armés. Là encore, les civils qui pourraient en bénéficier n'en bénéficient absolument pas et gagnent en général moins d'un dollar par jour quand ils travaillent dans les mines d'or.
Tu me disais qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui avaient été contraints de quitter leurs champs tout simplement à cause de toutes ces violences. Ça veut dire plus de culture, plus de quoi se nourrir. Je crois que c'était ça aussi l'objet d'un de tes reportages en allant en Ituri, c'était de voir l'influence qu'a l'Ouganda qui est donc le voisin de l'Est, l'influence alimentaire notamment.
Oui, effectivement, en fait, l'influence de l'Ouganda en Ituri, elle se situe à plusieurs niveaux. D'abord parce que l'Ituri, en fait, depuis des années, est vraiment considéré comme le précaré des Ougandais. Au début des années 2000, en fait, pendant la guerre, l'armée ougandaise occupait l'Ituri. Et plusieurs généraux soutenaient les milices en RDC, donc l'insécurité s'est maintenue comme ça pendant des années. Cette influence, cette emprise, en fait, finalement, elle a jamais cessé, d'abord sur le plan militaire, mais aussi sur le plan alimentaire, ou je dirais plutôt sur le plan économique, puisque quasiment tous les produits qui sont consommés en Ituri viennent d'Ouganda. Donc finalement, l'Est de la RDC, et particulièrement l'Ituri, est un énorme marché pour l'Ouganda. Les produits consommables, y compris par exemple les pommes de terre ougandaises, sont en fait déversés dans la région agricole de l'Ituri parce que les cultivateurs ne peuvent plus produire suffisamment pour survivre. Et puis, il y a aussi la question de l'or, qui est essentielle, puisque quasiment tout l'or qui est produit en Ituri est revendu illégalement via des trafics et via la contrebande en Ouganda. Alors, c'est évidemment un avantage économique non négligeable pour le pays, pour Kampala, parce que, par exemple, en 2023, l'Ouganda avait gagné 2,3 milliards de dollars grâce aux exportations d'or, principalement des exportations d'or illégales qui venaient de RDC.
Coralie, je donnais des chiffres au début de cet épisode. 1,5 million de déplacés, rien que pour l'Ituri, c'est énorme. Et ces victimes, tu leur avais consacré un grand reportage l'an dernier. Comme d'habitude, ceux qui nous écoutent savent que je mettrai les liens dans la page dédiée de Témoins d'Actu. En un an, comment tu dirais que les choses ont évolué ?
Malheureusement, pas très bien. Cette fois-ci, j'ai pas pu aller dans la même zone où je m'étais rendue la dernière fois. Parce que l'insécurité continue et ça devenait assez compliqué en fait d'aller dans cette zone-là. Les ONG, par exemple Médecins Sans Frontières, y allaient il y a encore quelques temps et puis ils ont interrompu au début de l'année leur mouvement justement à cause de cette insécurité, à cause de la présence des groupes armés, etc. Par exemple, l'hôpital où j'avais été et où je consacre une partie du grand reportage a de nouveau été attaqué par la CODECO, une attaque très violente dans l'hôpital. Les camps déplacés où j'avais été également ont encore grossi. Donc voilà, les choses n'ont pas évolué de manière positive.
Et les habitants, quand tu vas les voir, ils se confient facilement ou il y a des réticences que l'on peut comprendre, des réticences qui peuvent être liées à la peur de représailles, par exemple?
Il y a d'énormes réticences. Déjà, par exemple, quand on va dans une zone, on va dire mélangée, puisque il faut aussi rappeler que le grand reportage concernait le conflit communautaire, donc entre Emma et Lendou. Alors, quand on va dans ces zones-là, demander à une personne si elle est Emma ou si elle est Lendou, c'est extrêmement compliqué. On peut pas le demander de manière aussi frontale. Évidemment, quand on est étranger, on peut pas savoir qui est qui. Et pourtant, c'est évidemment important pour réaliser son reportage. Il y a aussi énormément de réticences à parler des groupes armés, par peur justement des représailles de ces milices hein, qui parfois n'hésitent pas aussi à tuer, à assassiner des membres de leur propre communauté hein, si il y a des choses qui ne leur plaît pas ou si ça va pas dans leur sens. Il faut préciser que quand on est côté Emma, une partie des leaders communautaires notamment affirment que les Emma n'ont pas de groupe armé, que les milices Emma n'existent pas et qu'ils sont seulement victimes de la milice Lendou. Or, tous les observateurs disent que ça, évidemment, c'est faux.
Au-delà, Coralie, de l'attention, des mots que tu emploies, j'ai bien compris, pour interviewer toutes ces communautés, est-ce que tu portes aussi une attention à ta propre sécurité ?
Oui, bien sûr. Quand on interviewe, par exemple, un leader, un commandant d'un groupe armé dans son fief, alors qu'il est entouré de combattants et qu'on est à 50 ou 60 kilomètres du chef-lieu de la province, évidemment qu'on fait attention à sa propre sécurité, d'abord parce qu'on a négocié des accès, d'abord parce qu'on a discuté en amont de ce qu'on allait y faire. On n'y va pas comme ça sans préparer, évidemment. Et puis aussi dans les questions que l'on pose, sans évidemment se mettre en danger.
C'est quoi aujourd'hui l'avenir de l'Itouri ? À la fin du mois d'avril, il y a eu plusieurs groupes, 5, qui ont signé des accords de paix. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Les habitants, ils y croient encore ? Ils attendent quoi ?
Oui, effectivement, il y a eu la signature d'un accord de paix ou de cessation des hostilités. Alors, les principaux groupes armés de l'Itouri l'ont signé. Notamment les Zaïres, et c'est la première fois, parce que jusqu'à présent, en fait, ils s'étaient exclus eux-mêmes de tout processus de paix. Mais tu l'as dit, effectivement, c'est pas la première fois, et jusqu'à présent, tous les accords, tous les processus, il y en a souvent à peu près un par an depuis 2017, ont échoué. Dans le cas précis, c'est vrai qu'il y a une petite accalmie, disent les observateurs, hein, mais les violences continuent toujours, notamment dans les zones aurifères, donc les zones de mine d'or. Et finalement, cette accalmie, tout le monde, tous les habitants de l'Itouri se demandent un peu jusqu'à quand elle va durer. C'est un peu la question. Oui, il y a une petite accalmie, mais on sait très bien que ça ne va pas durer.
Il y a un autre paramètre qui s'invite aussi en Itouri, c'est la MONUSCO. L'Itouri, je crois, ce sera la dernière province concernée par le départ de cette force onusienne. On ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi, mais les conséquences, elles sont redoutées ou pas par les civils de ce départ ?
Oui. Elles sont vraiment redoutées. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas de date de départ. Ça va beaucoup dépendre de l'évolution de la situation, je pense. Même la MONUSCO, même les Nations Unies sont pas encore au point sur leur date de départ. Et ce départ est vraiment redouté, notamment par la communauté Emma, parce qu'un certain nombre en fait de ressortissants de cette communauté ont formé des camps déplacés autour des bases de la MONUSCO pour être protégés en fait des attaques des milices. Et pour eux, en fait, le départ des soldats onusiens veut évidemment dire forte vulnérabilité. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment de visibilité quant à ce départ. Donc évidemment, c'est redouté, mais bon, chaque chose en son temps, comme on dit.
Tout à l'heure, tu m'as dit un mot de tes conditions de travail pour ces reportages et je voudrais savoir s'il y a des différences entre l'Itouri d'où tu reviens et le Nord Kivu où tu habites et qui est aussi une province qui est affectée par les combats avec le M23, tu m'en parlais au début. Il y a des différences, c'est tout aussi compliqué.
Alors, Oui, mais paradoxalement, en Ituri, malgré toute la violence qu'on a décrite, malgré le millefeuille de groupes armés, on peut quand même aller sur le terrain. Les autorités locales sont assez ouvertes aux journalistes et évidemment, il faut être prudent, négocier ses accès, aller sur place avec des guides, des fixeurs. C'est possible, mais ça demande de l'argent, des moyens et parfois, on n'en a pas toujours. Au Nord Kivu, par contre, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a des combats à l'arme lourde et c'est évidemment imprévisible. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu des roquettes qui sont tombées sur un camp de déplacés à proximité de Goma, donc la ville où j'habite actuellement. Une attaque à la roquette où il y a eu une trentaine de morts environ, des morts civiles. On y va régulièrement parce que c'est aussi un de nos terrains pour essayer de raconter cette guerre au Nord Kivu. Et c'est pas une ligne de front. Donc évidemment, ça montre à quel point le terrain est imprévisible et où évidemment c'est beaucoup plus compliqué de se déplacer et d'organiser ses missions. Et puis, on a aussi toute une partie du Nord Kivu qui échappe en fait au contrôle de l'État congolais, puisque toute une partie du Nord Kivu est en fait administrée par les rebelles du M23. Et les autorités congolaises n'autorisent pas les journalistes étrangers ou congolais à traverser en fait cette sorte de frontière invisible. Donc il y a des réalités en fait qui nous échappent, ou en tout cas on peut pas les expliquer en allant sur le terrain. Donc tout ça évidemment ça nous complique la tâche. Après il y a aussi beaucoup d'astuces pour essayer de continuer à raconter cette guerre, notamment en allant dans les camps de déplacés, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais c'est pas sans risque.
Merci beaucoup en tout cas Coralie d'être passée dans Témoins d'Actu me raconter tout ça. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager. Je vous dis à très vite.